Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur.
Debout, debout.
Il y a un pompier qui a perdu la vie il y a un an à Montréal dans les le rapide de la Chine. On s'en souvient de cette histoire-là, triste à mourir, oui. De ce pompier-là, donc qui allait effectuer un sauvetage. Il y a deux personnes qui étaient à l'essai d'un bateau. Un bateau qu'il venait d'acheter sans aucune connaissance nautique et ni de la mécanique des bateaux. Le problème, le bateau, le moteur s'éteint et ils partent à la dérive dans les rapides de la Chine. Et là, eux autres savent pas quoi faire. C'est la noirceur. Ils décident d'appeler le 911. Et la personne qui répond au 911, c'est un répondant. On va vous faire entendre un extrait. Lui, il a vraiment beaucoup de sang-froid quand il leur parle, mais en même temps, il voit vraiment le danger dans lequel il se dirige. Oui. Et on l'écoute tout de suite, le premier extrait.
On dérive vers Montréal.
Ouais, l'ancre.
En ancre, ouais, mais pas, je pense pas qu'il est assez puissant pour
ça. Oh, l'ancre, jette là, mon chum, parce que tu t'en vas dans les rapides, puis je vous dis tout de suite, mettez vos life jackets, ça va pas bien, là.
Oh. Mettez vos life jackets, vos vestes de sauvetage, vous êtes vraiment en danger, danger imminent. Ça, c'est l'appel. Et finalement, il y a un autre appel quelques minutes plus tard, parce que là, faut comprendre qu'il y a une quinzaine de minutes entre cet appel-là et l'arrivée des secours. C'est les pompiers de Montréal. Il y a un détachement qui se dirige en vitesse, on le sait. C'est des premiers répondants. Ils s'en vont donc sur le fleuve. Et pendant la manœuvre, il y a l'embarcation des sauveteurs qui chavire. Oh. Et là, on entend, il y était deux personnes dans le bateau de départ, les deux plaisanciers, un homme et une femme. Et là, la femme appelle au 911. On écoute le moment où le bateau des sauveteurs chavire dans les rapides.
On a appelé la maritime pour venir nous chercher sur le fleuve, présentement, à côté du fleuve Saint-Laurent. Et ils ont chaviré dans l'eau.
Qui a chaviré?
Les maritimes sont venus nous chercher sur le fleuve. Les pompiers.
Les pompiers ont chaviré dans l'eau?
Oui, ils sont venus nous chercher présentement.
OK.
Et on comprend donc le désarroi puis l'ampleur de la crise. Le coroner cherche à comprendre un peu les tenants aboutissants de ça. Il y a beaucoup de conclusions, je pense, qui vont arriver à la fin de ça. Il y avait une méconnaissance visiblement de la navigation et des lieux qu'on naviguait en général par rapport aux deux propriétaires, les nouveaux propriétaires de ce bateau-là qui connaissaient pas vraiment ça. Et l'ancre était pas assez forte pour accrocher dans le fond, pour les retenir de dériver vers les rapides de la Chine. Et malheureusement, il y a un pompier, Pierre Lacroix, qui a laissé la vie là-dedans.
C'est triste.
Et il y a beaucoup de questions, donc, de ce coroner-là. En fait, c'est Mme
Jeanne Kamel.
Jeanne Kamel, qui est en train de faire la lumière. La lumière là-dessus. Merci, Billy. Hey, j'ai de la misère, je suis désolé.
Je t'ai lancé une bouée là-dessus.
Merci, t'es super fin, mon cher Billy. Et on s'inspire de cette histoire-là ce matin. Est-ce que vous avez déjà vécu un sauvetage nautique? Moi, pour vrai, là, je connais pas ça, puis je sais pas ce que je ferais à noirceur, à la dérive sur le fleuve. Moi, je sais que mon frère, à un moment donné, avait failli. Il est tombé en panne dans le Schneil sur le fleuve Saint-Laurent avec un Sea-Doo dans le temps, puis un bateau transatlantique qui s'en venait vers lui. Mais transatlantique, tu sais, les plus gros dans le fleuve.
Oui, un paquebot
qu'il voit pas. Puis lui, écoute, il a failli sauter en bas du Sea-Doo pour se tasser. Le bateau est passé vraiment proche de lui. La vague l'a repoussé en dehors du Schneil, mais il a eu la peur de sa vie, pour vrai. Est-ce que vous avez vécu un sauvetage
mais
sur l'eau?
Mais quand tu vois la force de l'eau, puis que même des pompiers peuvent passer à travers ce genre de situation-là, c'est fou, là.
C'est fou, raide. Puis on le dira jamais trop, mettez votre ceinture de sauvetage quand vous êtes sur les plans d'eau au Québec. C'est hyper important, mais on cherche quelqu'un à qui c'est arrivé. Donc, téléphonez-nous, 790, c'est quoi? 790-2564. Je pense qu'à la gang, on a tout vécu. Est-ce qu'on a quelqu'un, mon beau Seb? On a trouvé quelqu'un?
On a Dominique.
Ouais.
C'est lui qui a sauvé des gens de la noyade. Il va nous raconter ça. Oh là là.
T'es comique? De retour après ceci.
Debout les comiques.
96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
On se parle de ce sauvetage où ça a fini en tragédie il y a un an dans les rapides de la Chine. Ça a causé le décès du pompier Pierre Lacroix. On s'inspire de ça. Est-ce que vous avez déjà vécu un sauvetage nautique? Et on a trouvé Dominique. À qui c'est arrivé? Salut Dominique.
Salut la gang, ça va bien?
Ça va très très bien. Dominique, d'entrée de jeu, c'est pas ta job là, d'être sauveteur sur les plans d'eau ou quoi que ce soit. Toi, ça t'est arrivé dans quelles circonstances?
Non, c'est pas ma job. Puis moi, j'habite à Laval, sur le bord de l'eau de la rivière des Mille-Îles.
Oui.
C'est une fin de semaine, c'est une belle journée. Puis mon Sidou, il est OK. Je dois aller faire un tour de Sidou après-midi. Puis je m'en vais vers Repentigny, là, la rivière des Prairies, le fleuve, là, tout ce coin-là.
Mm-hmm.
Puis je suis sur le bord des îles, puis je regarde au loin, puis je vois une chaloupe qui voit qu'elle est comme enfoncée dans l'eau. Elle est basse. Là, je regarde ça, puis je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce sont peut-être 4-5, c'est comme des jeunes de 25 ans. Fait que j'étais quand même assez loin, peut-être. Fait que je pars vers la chaloupe, puis plus que je m'avance, je vois la chaloupe, puis je vois plus la chaloupe, les côtés de la chaloupe, je la vois plus. Puis, on tombe en mode un peu nerveux, parce qu'on n'est pas préparé à des choses comme ça. Mais je me dis, est-ce que ça va bien ou ça va pas bien? Y a-t-il quelque chose qui va? Ouais, c'est plus que je m'approche, là, je vois les tout flotte dans l'eau. Je m'approche tranquillement pour pas faire de vagues, pour pas
empirer le cas.
Puis je demande, est-ce qu'il y a des enfants? Mais je vois juste que c'est une gang de jeunes. Je vois pas d'enfants. Il y a personne qui a le ceinture. Je vois des sacs de chips qui flottent.
Oh.
Mais, là, je suis pas après juger. Je suis en moment qui j'aide, qui a besoin d'aide. Puis c'était un addon que j'arrive là. Que j'arrive à côté de deux filles, que j'en vois une, puis j'arrive, j'éteins mon sidou à un moment donné, puis je prends la fille, puis je dis, toi, à ma droite, je dis, toi, tiens-toi après mon marchepied, puis j'en vois une à gauche, puis je la prends, elle aussi, pour que lui dire, accroche-toi après mon marchepied, au moins, vous n'aurez pas à vous essouffler, vous allez vous tenir après mon
sidou. C'est ça.
Quand je retourne les yeux à droite, la première fille, je ne la vois plus.
Oh.
Tout ce que je vois, admettons qu'elle est enfoncée trois pieds dans l'eau. Je vois juste ses cheveux dans l'eau, mais elles sont un pied dans l'eau, de profondeur. J'ai réussi à me rentrer la main.
À la chercher par
J'ai eu une force, parce que je ne serais pas capable de faire ça. Je pense que c'est l'adrénaline. J'ai réussi à la sortir de l'eau et à la coucher sur mes jambes. Puis l'autre fille, elle me dit à gauche, elle dit, je suis correct, tu peux y aller avec. Mais elle était comme évanouie, elle ne bougeait plus. Là. Je l'ai mis sur mes jambes, je suis allé au bord de l'eau, mais...
Y avait-tu d'autres personnes? Y étais-tu juste deux dans la chaloupe, Dominique, ou y avait d'autres gens avec eux autres?
Il était genre 4 ou 5. Puis, j'étais allé au bord de l'eau. Elle s'est comme réveillée pendant que. Elle s'est mise à baumer de l'eau quand elle était sur mes jambes.
Ben oui.
Elle ne comprenait rien de ce qui se passait. C'est j'étais allé le lasser. Je me suis beaché sur le bord. J'étais allé le lasser. Je dis, reste là, t'es correct. Elle respirait, mais les yeux n'étaient pas là. Je suis reparti. Pour aller en chercher d'autres, mais là, j'ai vu la police qui arrivait, la police en bateau.
OK.
Mais quand je suis arrivé chez nous, parce que je reste dans la rivière des Mille-Îles, sur le bord, quand je suis arrivé chez nous, je me suis mis à shaker partout.
C'est sûr.
Qu'est-ce qui vient de se passer?
T'étais en état de choc, on peut le dire comme ça, Dominique? C'est comme si t'étais comme mu par une importance.
Possédé, là,
ouais,
comme...
Sur le moment présent, je vais vous dire que non, c'est fort, le corps humain, comment il est fait, parce que j'ai été capable de penser de ne pas faire de vagues. Tu sais, j'ai fait des gestes, je ne suis pas habitué à ça, j'ai fait des gestes qui ont bien été posés, je pense.
Ouais.
Mais quand je suis arrivé à la maison, c'est là que je suis tombé en mode peu comme panique. Qu'est-ce qui vient d'arriver?
Tu connais l'eau, Dominique. T'as eu les bons réflexes parce que tu te promènes sur l'eau d'habitude. Puis t'as dit une affaire dans ton histoire quand t'as vu les sacs de chips flotter. Eux autres, là, ils mangeaient des chips, puis ils tripaient, puis ils chillaient. Puis ils n'avaient pas le ceinture de sauvetage. Puis ils se sont fait surprendre par une vague, un bateau peut-être qui a passé trop vite à côté, puis qui a rempli la chaloupe. On ne sait pas ce qui est arrivé, mais t'as eu tous les bons réflexes.
C'est ça le sang-froid. Ouais, ce que tu t'écris, j'ai l'impression que c'est le sang-froid parce qu'après, quand t'arrives chez toi, tu te retrouves à trembler. C'est une force naturel.
Moi, j'ai un mot à dire. J'ai eu 25 ans. On a tout des conneries de même. La ceinture, là, c'est obligatoire.
C'est pas une joke,
c'est ça. Beau avoir 20 ans, 5 ans, j'ai des enfants. J'ai un quai chez nous. Il n'y a pas un enfant qui met le pied sur le quai s'il n'y a pas sa ceinture.
Ouais.
C'est un accident, ça prend 2 minutes. Fait que c'est juste un mot de sécurité pour bien des gens, autant peu importe. La ceinture est obligatoire.
Dominique, merci d'avoir pris du temps. Merci tellement d'avoir raconté ton histoire ce matin. Puis c'est une sensibilisation. C'est toujours nécessaire. Même si on est l'hiver, il y a moins de monde, c'est plein d'eau. Mais encore là, faut avoir peur de l'eau un petit peu plus que ça.
Ouais.
Merci, Dominique, d'avoir pris du temps pour nous.
Ça fait plaisir. Bonne journée. Puis là, je sais pas votre beau travail.
T'es fin, Dominique. Donc, on a trouvé quelqu'un parce qu'à la gang, on a tous vécu. C'est ça qui est frappant aussi, même dans des tragédies comme celle-là. Et on souhaite que la coroner, donc, dans ce cas de cette noyade d'un pompier il y a un an, dans les rapides de la Chine, qu'on ait des réponses à ça, puis que nos pratiques climatique s'améliore. C'est comme ça qu'on avance, mais malheureusement, tranquillement, avec des exemples qui nous frappent.
Des comiques, de retour après ceci.
Debout les comiques. 96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
OK, lancez-moi des roches si vous voulez. Je comprends pas le buzz des émissions de cuisine. Ça pogne une affaire de rare.
Ouais.
Dans chaque show, ils font même une chronique cuisine. Par exemple, à c'est Salut, vrai? Bonjour, hier, ils ont fait un genre de fajitas avec du fromage fondu puis de la crème sure. Pour vrai, à 9h25 le matin, j'avais le goût de vomir dans chaque pièce de ma maison.
Ouais.
Même Gino filait pas. Mais ça, on peut pas le remarquer, là. Il y a 4 pouces de fond de teint. Mais moi, je le voyais avaler sa bave aux 3 secondes.
Ah ouais. Ah ouais,
aller le voir au ralenti. Mais pour vrai, qui cuisine avec une recette de la TV? Qui?
Personne.
Qui? Ben, c'est ça. En partant, t'as beau t'appeler Geneviève Ogleman ou Marina Orsini, c'est pas toi qui vas décider de ce que je vais manger à soir.
Non.
Compris? Pis là, j'aborde même pas les pseudo-chefs, tu sais, voir Christian Bégin, Stéphane Bellavance cuisiner, c'est comme regarder mon chum qui essaie de me faire l'amour. Laisse donc faire les professionnels!
Ah.
Non, mais le gars de Télépirate pis le gars de Air Force, ils auront beau maîtriser la mandoline, moi je le sais, que quand ils disent « pain blanc à 2 fesses », ils ont repris la scène 3 fois parce qu'ils ricanaient, les gars. Pis partez-moi pas sur Marie-Lou. Ça joue les grosses vedettes, mais personne connaît son nom de famille. On n'a jamais entendu ça. « Hey, c'est bon ce qu'a fait Madame Bourdon. » On n'a jamais entendu
c'est
ça.
C'est-tu Bourdon pour vrai?
C'est oui,
pour vrai.
C'est Bourdon.
Oui.
Hein? 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 Je fais la lumière, c'est vraies
ben
affaires.
Ouais.
En
matin.
Les shows de cuisine à la télé, c'est zéro pratique. Les recettes partent. Ils font en 22 minutes ce qui va, moi, me prendre 3 heures à faire. 22 minutes, c'est le temps que ça me prend trouver le petit fromage dans le frigo pour faire ma lasagne.
Tellement.
Et puis, honnêtement, qui a les ingrédients? Du curcuma. Moi, j'en ai acheté en 1996. J'ai encore les doigts jaunes. Là, je vois bien que j'ai le pot, mais c'est un fond de ciment de curcuma que j'ai. Je le pique avec un couteau pour en faire des cristaux. Ça marche. Mais quand tu croques dans une roche de curcuma, mettons que ton pâté chinois change de ton. Puis l'émission, elle continue, là, tu sais, pendant ce temps-là. Là, elle continue.
Oui, mais là, c'est sûr que si t'as mis en même temps, tu essaies de y aller.
C'est plus tough.
Ah,
OK, ben, je suis en mode solution, je vais l'enregistrer.
Oui.
Mais ça veut dire que tu fais des pauses dans ce cas-là.
Oui.
Fait que les 3/4 du temps, la télé est sur pause. Mm-hmm. C'est silencieux, c'est plate, c'est de la calisse de merde.
Ah, okay.
Ben oui. Puis, il y a toujours un bout où l'animateur a du fun. Là, il jase de sa vie, mais il dit pas ce qu'il fait. Fait que moi, dans ma coquille Saint-Jacques, mes bouts de patates sont trop gros, mes crevettes ont encore leur coquille, mais je sais que Stéphano est déjà arrêté pissé dans un Pétro-Canada de Matane. Bref, je vais arrêter là.
Okay.
Mais est-ce que je vous ai dit que j'aimais pas cuisiner?
Non.
Non, on va peut-être dû le dire d'entrée de jeu. Là, c'est pas.
Ça manquait d'ingrédients.
Le podcast Debout les comiques.
Vendredi dernier, les étudiants et le personnel du cégep Lionel Groulx ont été confinés dans l'école parce qu'on croyait qu'un tireur pouvait être sur le terrain de l'établissement. C'est finalement un mineur qui avait acheté un jouet, une réplique d'un AK-47 au Party Expert à côté du cégep. Une mésaventure, qui aurait pu mal tourner. On en jase avec François Doré, ex-policier de la SQ à la retraite et un collaborateur ici régulier dans Debout les comiques.
Salut François!
Hey, bonjour Martin, bonjour à toute l'équipe.
Salut François. Écoute, François, est-ce qu'un policier peut facilement faire la différence entre un jouet et une arme?
Ben, c'est une question de temps, Martin. C'est une question d'observation visuelle de ce que l'arme peut avoir l'air. Est-ce que ça a l'air vraiment d'une arme à feu? Auquel cas, le policier devra décider rapidement ce qu'il fait avec. Mais c'est pas toujours le cas. C'est vraiment, là, chaque dossier est unique. Il y a des choses, oui, ça a l'air des armes à feu. Il y a des choses, oui, ça a l'air des jouets. Mais ultimement, en bout de ligne, qu'est-ce que c'est? Tant qu'il n'y a pas d'intervention, on ne le saura pas. Tant que les policiers n'iront pas voir, n'iront pas s'interposer, n'iront pas interpeller la personne, ils ne le sauront pas.
Mais ça risque de se passer de façon quand même assez sec, là, dans le sens qu'eux autres n'arrivent pas là en se disant « Ah, c'est peut-être un jouet, là. Ça peut mal virer s'ils pensent que cette arme-là est une vraie. »
Non, c'est le premier réflexe, tu as raison, Billy. C'est le premier réflexe des policiers, c'est que tout ce qui s'appelle arme à feu est véridique.
C'est
parce que au même titre qu'on dit qu'une arme à feu n'est jamais déchargée, on dit que tout ce qui ressemble à une arme à feu, potentiellement, est une arme à feu. Et si le policier doit intervenir, il ne peut pas se demander pendant 5 minutes, est-ce que c'est une arme à feu, est-ce que c'est pas une arme à feu, parce qu'il risque, dans le cas où c'en est une, de recevoir une balle, deux balles. Et c'est malheureusement...
Ça. Ben, François, c'est vrai jusqu'à preuve du contraire, autrement dit, pour vous autres. Là.
Ben, c'est en plein ça. Puis il y a un vieux dicton qui dit que vaut mieux être jugé par 12 que porté par 6.
J'aime ça. Mais François, je me posais la question ce matin, quel genre de formation est-ce qu'on donne aux recrues policiers à ce sujet-là? Qu'est-ce qu'on leur dit? Comment ils doivent agir?
Ben, première chose, c'est l'observation. Deuxième chose, c'est évidemment dans la formation, d'engager quelqu'un qui potentiellement pourrait être un tireur actif ou quelqu'un qui a une arme, d'observer et d'agir en conséquence, de se protéger, de protéger les autres. Et malheureusement, des fois, ben, ça va finir par l'utilisation de l'arme à feu, indépendamment de ce que la personne à l'autre bout a dans les mains. Parce que si en voyant les policiers, elle dit « Non, non, c'est un jouet », puis elle dépose l'arme. Ici, il n'y a pas de raison de sortir ou de pointer ou de tirer.
Mais tu as la situation contraire de quelqu'un qui va faire un dépanneur avec une fausse arme, mais qui va faire semblant qu'elle est vraie dans l'intention. Lui, il court un danger à tabarouette, là.
Absolument, absolument. Les policiers ne se poseront pas de questions. On parle d'un vol de dépanneur, on parle d'une arme à feu potentielle. S'il pointe les policiers, ben, je regrette, mais... ça s'arrête là.
Moi, j'ai une amie qui est enseignante au cégep Lionel Groulx qui a fait un post sur Facebook qui dit « Comment ça que le jeune homme avait pas cette arme-là dans un sac? » Puis les gens réagissaient en disant « Pourquoi les armes sont pas rose fluo, d'une autre couleur? » Bref, la question que je me demande, c'est est-ce qu'on devrait pas avoir une législation plus stricte pour que les jouets aient l'air plus de jouets?
Ben absolument, une législation beaucoup plus stricte, parce que j'ai fait des vérifications ce matin et j'ai pas trouvé de législation touchant les armes à feu comme telles, factices, les jouets. Trouver des lois sur le rembourrage des jouets, le matériau des jouets, des parties que l'enfant peut avaler, des choses comme ça, mais pas sur la réalité ou du moins l'apparence
la vraisemblance.
De l'arme à feu. Oui, rose fluo. Et pourquoi pas, jusqu'à ce qu'on découvre qu'il y a des AR-15, que des gens ont peinturé rose fluo pour les faire passer pour d'innocentes armes.
Imagine,
il n'y a pas de solution magique là-dessus.
C'est ça, mais imagine tout ce qu'on aurait pu éviter s'il avait mis l'arme dans un sac. T'sais, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de la part du marchand, la personne qui vend ça, de faire, tu vas pas circuler avec ça, là. Tu sais, il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait, mettre en place.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Faire en sorte que ces armes-là, ou du moins ces simulacres d'armes-là, ne soient pas transportées en public, au vu et au su de tout le monde. Ouais. Parce que, évidemment, la personne qui l'entre les mains sait qu'elle a acheté ça dans un commerce non loin du cégep, puis elle sait que c'est pour, quoi que ce soit, pas pour faire commettre un crime, mais les autres qui voient ça ne le savent pas. Moi, mon voisin qui sort de chez eux avec une arme, je ne sais pas si c'est factice ou non, à moins qu'il soit un chasseur, bien sûr.
Dernière question, François. Il y a eu une confusion avec le code blanc, donc vendredi dernier au cégep Lionel Groulx. C'est quoi le code blanc? On sort de l'édifice ou on se confine?
Bien, visiblement, le code blanc, c'est lorsqu'il y a potentiellement un tireur actif. Donc, on demande aux gens de se confiner à l'intérieur des locaux où ils se trouvent, fermer les portes, barrer les portes, mettre des objets devant les portes, ne pas entrer ceux qui sont à l'extérieur. Si à un moment donné, il y a un système d'appel public, allez-vous-en. Vous n'êtes pas les bienvenus là. Ceux qui sont à l'intérieur, confinez-vous. Et les policiers qui se présentent, la première chose, c'est qu'ils doivent se mettre à la recherche du danger. Évidemment, ben le mettre hors d'état de nuire, le neutraliser au besoin. Et si c'est un jouet, tant mieux, on n'en parle plus. Mais les gens sur place, oui, se confinent, les autres s'en vont tout simplement.
Merci infiniment d'avoir pris du temps pour nous, François. On se reparle très bientôt, mon ami.
Merci, bonne journée.
Bye, François Doré, policier de la SQ à la retraite.
Le podcast Debout les comiques.
Et là, pour le moment, on se compte des jokes dans Debout les comiques.
Ça, assez cru, avec Marie-Claire. Toi avec, OK, on est toutes là matin. Marie-Claire fait dire, c'est quoi la différence entre un professeur à la retraite et un tampon hygiénique?
Je sais pas.
Mais il y en a pas, les deux quittent le corps enseignant.
OK, arrêtez là. Il y a quelqu'un qui s'identifie pas à sa messagerie texte qui dit, c'est un homme qui dit à sa femme, « Hey, je t'emmène en voyage pour nos 25 ans de mariage. » Là, la femme, elle répond, « Oh, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire pour nos 50 ans. » Et là, l'homme, il répond, « M'a peut-être de retourner te rechercher. » L'autre, c'est TQ qui nous l'a envoyé. Attention, les chastes oreilles, bouchez vos oreilles un petit peu. C'est un troqueur qui rentre dans un truck stop, puis il regarde le menu, c'est écrit sous-marin 5$, poutine 10$, 10$, une crossette, 20$.
Ben,
le troqueur demande à la serveuse, c'est-tu toi qui fais les crossettes? Elle dit oui. Le troqueur dit, lave-toi-même, je vais prendre un sous-marin.
Ah, j'aime ça. Ah, j'aime ça. Mais ouais. Mais ouais.
Là, toi, t'as dit une blague de ticu. Moi, je te relance avec une blague de bobo.
Non!
Parce que là, pour nos auditeurs qui connaissent pas ticu puis bobo, ils nous écrivent toujours. C'est comme des mascottes.
Et ce qu'il faut dire, là, pour pas briser la magie, Valérie est très anxieuse.
Oui. Ah,
elle a hâte, puis en même temps, elle a peur de la
compter. Boucher encore les oreilles des enfants.
C'est pourquoi je vais raconter cette joke-là. Alors, c'est un gars qui rentre dans un bar de danseuse. Il s'assoit, il commence à checker un peu la place. Il spot une fille, puis il dit, ah, viens ici, il demande une danse, tu sais. Fait que là, toute contente, elle dit, ben là, bien sûr. Après une heure, la danseuse lui dit, ben là, j'espère que t'as l'argent pour me payer. Il dit, ah, t'inquiète pas, j'en ai encore pour une bonne heure. Fait que là, une heure plus tard, elle dit, OK, c'est bon. Là, tu peux arrêter. La fille était un peu fâchée, puis elle dit, ben voyons, c'est quoi ton maudit problème, là? Deux heures pour vrai? Il dit, hey, check sa pancarte. C'est écrit 5 à 7. La grosse est à 5 piastres. C'est une joke de grossophobe, Valérie.
Ben voyons, Valérie.
C'est de la grossophobie, Valérie.
T'as été là, Valérie.
Ça, Valérie, voyons donc.
Ben voyons.
Ben voyons.
Mais voyons.
Mais je te reconnais pas, Valérie. C'est la solidarité féminine, la sororité. Voyons.
6h43.
Toi, t'as pensé du rabais vrai? De la petite qui était à...
La petite est à deux pour un.
Le corps des femmes, Valérie, vraiment?
Non, mais 6h43. tout peut arriver dans ce segment-là. C'est debout les caves.
C'est pas moi, c'est Bobo.
Elle a fendu.
On va rejouer demain à 6h42 dans Debout les comiques.
Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com.
Debout les comiques. C'est 23.